débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Le Premier ministre Manuel Valls est en visite aujourd'hui et demain à l'île de la Réunion. Un séjour sous le signe de l'économie, de la jeunesse, des énergies renouvelables. L'occasion de réaffirmer la solidarité de la métropole dans une île à l'indiscutable vitalité, mais pénalisée par de multiples difficultés. Après le chikungunya, les requins ont fait fuir les touristes et le chômage reste très important. Les inégalités sociales ont pris des proportions dangereuses et le coût de la vie reste élevé. Si ce portrait semble loin des clichés habituellement attachés à la vie insulaire et tropicale, cela veut-il dire pour autant qu'on a le moral en berne à La Réunion? Eh bien, on va en parler avec deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. François Parmentier, directeur adjoint du département Outre-mer de l'AFD, c'est l'Agence française de développement, très impliqué dans le développement économique de La Réunion. Bonsoir François Parmentier.
Bonsoir.
Et puis Philippe Vital est sociologue à Aix-Marseille Université, chercheur au laboratoire méditerranéen de sociologie. Il a publié récemment « Mobilité ultramarine » aux éditions des Archives contemporaines et un numéro de la revue « Faire savoir » intitulé « La Réunion, regard contemporain ». Et vous êtes au téléphone de Marseille. Bonsoir à vous Philippe Vital.
Oui, bonsoir.
Alors, je reviens vers vous dans quelques instants, Philippe Vital. François Parmentier, il y a un an, votre agence relayait un diagnostic concernant le développement de La Réunion. Un développement qui passe, disiez-vous, par la lutte contre les inégalités sociales qui ont atteint, je vous cite, un degré hors norme. Est-ce qu'aujourd'hui, le constat tient toujours? Est-ce que La Réunion reste une société particulièrement inégalitaire?
Alors, votre question, en fait, elle en soulève un certain nombre déjà. Oui. Pourquoi ? Parce que La Réunion, c'est le dôme le plus important en termes de population. Vous le savez, c'est aujourd'hui 850 000 habitants à peu près. Ce sera 1 million d'habitants à horizon de 2030. Donc, c'est une quinzaine d'années. C'est quasiment demain. Il y a un indice qui est intéressant, mais là, je pense que notre interlocuteur à Marseille nous en parlera plus longuement et surtout de manière plus pertinente que moi. C'est l'indice de Gini. C'est l'indice de dispersion, finalement, pour dire, en gros, est-ce qu'une société, elle est inégalitaire ou pas. Aujourd'hui, cet indice, il est à 0,53. Ça veut dire qu'on a une société dans laquelle il y a un certain nombre de disparités. Alors, si on s'en borne à ce constat-là, effectivement, on est dans une vision plutôt statique, éventuellement un peu misérabiliste, ce qu'il faut, c'est plutôt se situer, je pense, dans une trajectoire, et plutôt de regarder quelles sont les potentialités de cette île et qu'est-ce qui permet finalement de passer d'une société qui présente un certain nombre de faiblesses, effectivement, à une société qui peut finalement embarquer de la croissance et surtout embarquer ses jeunes. Mmh. Et si vous me permettez, peut-être ce petit détour par de la démographie, même si ça n'est pas mon métier de base, loin s'en faut, il faut quand même noter que c'est une population qui est très jeune. Aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers de sa population qui a moins de 20 ans. C'est un réel atout. C'est aussi une jeunesse qui est formée. Et ça veut dire aussi, du coup, une capacité à inventer, une capacité à développer. On le voit, il y a un dynamisme des entreprises. Il y a sur les Outre-mer en général, mais en particulier à La Réunion, des indices de création d'entreprises qui n'ont rien à envier à ceux qu'on connaît sur la métropole. Il y a une longévité des entreprises au bout de 5 ans qui n'a pas du tout à rougir lorsqu'on la compare à celle qu'on peut connaître en Alsace-Lorraine ou en Lozère. Donc finalement, oui, on est dans une société, qui présente un certain nombre de caractéristiques, qui présente un certain nombre de déséquilibres, mais il y a un véritable dynamisme et qui, pour nous, est tout à fait porteur et c'est ce qu'on est prêt à accompagner.
Bien, vous nous offrez une trajectoire sur le futur et on va en parler bien sûr longuement à l'occasion de cette émission. Je ne sais pas si vous partagez l'analyse de François Parmentier, Philippe Vital, mais la trajectoire, on peut aussi l'amener du passé et se demander si cette inégalité trouve ses sources dans l'histoire coloniale de l'île.
Oui, ben écoutez, je partage évidemment l'analyse de mon interlocuteur et votre question. On ne peut pas penser La Réunion sans son histoire. La Réunion est devenue département en 1946 et nous sommes, que nous soyons d'accord ou pas avec le terme, dans une situation post-coloniale. Et l'assimilation, si vous voulez, à la métropole, ou comme le diraient certains réunionnais à la France, et je reviendrai peut-être sur ce label qui est assez important d'ailleurs, puisque la jeunesse réunionnaine, pour une part, refuse le label de métropole, pèse, je crois, sur le dynamisme, même si j'apprécie le volontarisme de M. Parmentier et des politiques, et je reconnais l'audace ultramarine, pour reprendre le slogan de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, mais il ne faut pas oublier les faits. Et les faits ont été soulignés par mon interlocuteur, démographie, la démographie qui pèse depuis l'après-départementalisation, démographie qui a conduit Michel Debré dès les années 60 à mettre en place des politiques qui ont opposé le Parti communiste réunionnais, qui ont suscité des vagues d'émigration et qui pèsent encore sur l'histoire de l'île. La situation de l'emploi, ça a été cité, 30% de la population réunionnaise au chômage, 60% des jeunes, 65% d'entre eux sont au chômage depuis plus d'un an. Les inégalités entre les habitants de la Réunion, on l'a cité, l'indice de Gini, 0,54, ce qui signifie quoi? En gros, 41% des Réunionnais vivent au-dessous du seuil national de la pauvreté. Rapport interdicile, des niveaux de vie, 5,2 à la Réunion, 3,3 en métropole. Les distributions des niveaux de vie, en gros, 20% des plus riches qui concentrent près de la moitié des ressources, 20% des plus pauvres qui n'en possèdent que 7%. Pour rappeler pour les auditeurs, les fonctionnaires, qui sont assez nombreux à la Réunion, 35% de vie chère. Pour les autres, qui n'ont pas cette chance. Bref, l'histoire de l'île pèse. Il ne faut pas minorer du tout l'histoire de l'esclavagisme à la Réunion, comme on le fait trop souvent par rapport au côté Caraïbes. Et je crois que l'assimilation, la déculturation, la perte de la culture originelle, la culture créole, qui est certes plurielle, au profit d'une nouvelle, eh bien aujourd'hui, à mon sens, est un frein à l'initiative de toute une partie de la jeunesse, même si je ne minore absolument pas les avancées, les créations d'entreprises, l'audace ultramarine, l'originalité des Réunionnais, mais il reste une partie importante des Réunionnais qui sont au RSA, qui aujourd'hui ne veulent plus bouger de leur île, j'ai fait une longue enquête là-dessus, et ça, à mon avis, c'est un véritable problème.
Bon, on va reparler longuement parce qu'effectivement, on a un petit peu de temps pour évoquer tous ces problèmes. La départementalisation depuis 46, vous l'avez cité, vous l'avez signalé, a sorti, on peut quand même dire, la Réunion de son carcan colonial, donné à chaque individu une meilleure chance, un accès plus grand à l'éducation, à la santé. L'inégalité se résorbe, mais François Parmentier, vous disiez dans des articles que j'ai lus de vos revues qu'elle restait un frein à la croissance. Alors expliquez-nous comment et pourquoi.
Quand on parle de la population, on peut parler du dividende démographique ou du poids qu'elle peut constituer, bien évidemment. À noter malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé sur la Réunion? Vous avez quand même eu un département qui affichait des taux de croissance de l'économie qui étaient tout à fait significatifs. Simplement, vous avez aussi un taux de croissance de la population qui n'a pas permis nécessairement une redistribution aussi égalitaire. Et c'est là où je rejoins finalement le constat qui a été fait par mon interlocuteur, c'est que en fait vous avez une population qui affiche en fait un certain dynamisme économique. Vous avez des politiques publiques qui sont menées par les acteurs, que ce soit le conseil régional, le conseil général, les mairies aussi.
Allons-y, venons-en à cette politique. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour que cette croissance reparte à la hausse?
Un certain nombre d'investissements sont réalisés chaque année. Vous savez, évidemment, il y a le grand projet de la nouvelle route du littoral. Mais il n'y a pas que celui-là, même s'il pèse et bien évidemment sur l'économie. Il joue un effet d'entraînement également. Lorsque vous avez des investissements aussi imposants que cela, il y a un effet d'entraînement sur l'économie. Ce sont les emplois directs, mais aussi les emplois indirects, les emplois induits liés à un projet comme celui-là. Mais vous avez également tous les projets qui sont menés à bien par donc le conseil général, le conseil régional, par les mairies, et je n'oublie pas évidemment par des acteurs économiques qui sont tout à fait essentiels sur la Réunion. Je pense notamment aux opérateurs de logement. Je pense à la SIDR, mais elle n'est pas la seule. Nous en sommes actionnaires d'ailleurs. Elle a engagé un ambitieux programme de réhabilitation de son parc, et bien évidemment un des investissements comme cela contribue jour après jour, peut-être de manière un peu moins médiatiquement exposée, on va dire, mais contribue jour après jour à créer de l'emploi aussi.
Philippe Vital, un commentaire sur cette réflexion sur l'essor économique, les activités qui se déploient en ce moment à La Réunion pour tenter de sortir un petit peu du marasme économique.
Oui, encore une fois, mais si vous voulez, statistiquement, je ne nie pas les atouts économiques, je ne nie pas l'audace. Je pense qu'on est totalement d'accord hein, avec M. Parmentier sur le constat. La seule chose, je ne voudrais pas passer pour l'esprit du chagrin du débat. La seule chose, si vous voulez, c'est que statistiquement, on s'aperçoit que ça ne nous amène pas à avoir un tableau idyllique de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance à l'avenir, mais moi, ma seule inquiétude, si vous voulez, c'est la masse des jeunes réunionnais. Certes, la Réunion est une île extrêmement jeune, mais si on prend les projections de l'INSEE et de l'INED, comme un boomerang, évidemment, en 2020-2030, on va se retrouver avec une population assez vieillissante à la Réunion. Donc là aussi, ça posera un certain nombre de problèmes, comme en France métropolitaine. La seule chose, si vous voulez, c'est que j'aimerais bien connaître les secrets, j'ai pas de baguette magique, moi, je suis pas politique, je suis sociologue, de ce dynamisme, comment encourager une partie de la jeunesse qui n'est pas fortement qualifiée et qui est la plus représentatrice statistiquement de la Réunion, à engager ce processus de dynamisme économique. Et là, il y a un réel problème, et c'est pas par décret ou par des visites comme celle qui a été le cas aujourd'hui, je ne vois pas trop, si vous voulez, quels sont les possibles du changement d'horizon.
Bon, mais comment faire? Alors, quelles seraient les solutions que vous amèneriez au problème que vous soulevez?
Déjà d'avoir conscience, si vous voulez, que la Réunion, c'est certes la France, c'est certes une histoire de France, mais c'est une histoire entièrement à part. Et qu'il faut, malgré tout, prendre conscience que au XXe siècle, de l'avant départementalisation de 46 jusqu'aux années 60, mon interlocuteur l'a souligné, on est passé de la charrette à bœuf à des voitures sur la route en corniche de la Réunion, qu'aujourd'hui, il y a des supermarchés qui égrènent la Réunion, que le touriste qui découvre la Réunion pour la première fois va dire mais qu'est-ce qui change Saint-Denis de la Réunion d'une capitale française? On est dans un mode de vie, si vous voulez, complètement acculturé à la France métropolitaine, toutefois avec un changement profond dans le cœur de l'île, dans les territoires les plus ruraux, où là, si vous voulez, il y a une différence notable avec le mode de vie généralisé qui est celui de la métropole. Et c'est là, je crois, désolé d'insister là-dessus, mais c'est mon cheval de bataille, ou en tout cas mon élément de recherche, c'est qu'aujourd'hui, toute une partie de la jeunesse réunionnaise qui, auparavant, utilisée par des stratégies de compétences, de défiance ou tout ce que vous voulez, les subventions de l'État pour venir en France métropolitaine, faire un stage, revenir à la Réunion, aujourd'hui, toute une partie de la jeunesse refuse de quitter leur île, refuse de faire des stages et défendent la question de l'immobilité.
Alors, on va revenir sur ce point parce qu'il est important, celui de l'identité que vous évoquez et que vous évoquiez tout à l'heure. Je voudrais revenir à un aspect économique avec vous, François Parmentier, parce que j'évoquais en début d'émission, la crise du chikungunya, deux, celle du requin. L'industrie touristique en a souffert. Est-ce qu'elle est moribonde aujourd'hui?
Écoutez, je ne suis pas le spécialiste du tourisme. Parler d'une industrie moribonde aujourd'hui me paraît fort exagéré. Tout comme me paraissent également fort exagérés les échos médiatiques autour du requin, très franchement. Encore une fois, il y a incontestablement un certain nombre de chiffres qui peuvent apparaître un petit peu préoccupants, effectivement, sur la baisse du nombre de touristes. On est aujourd'hui à 405 000 touristes par an à peu près. L'objectif que s'était fixé la Réunion de 600 000 paraît relativement difficilement atteignable, en tout cas à terme extrêmement rapproché. Pour autant, si je regarde les investissements qui aujourd'hui sont réalisés, par exemple, un certain nombre d'entre eux touchent précisément le secteur hôtelier, l'accueil touristique. Un certain nombre d'investissements sont également réalisés en termes d'infrastructures, qu'elles soient des infrastructures portuaires ou aéroportuaires, sur une île, le meilleur moyen d'accueillir les touristes, c'est de pouvoir les faire venir. Et pour ça, il faut effectivement avoir des infrastructures. Il y a donc des investissements qui sont réalisés. On parle également donc de l'ouverture du ciel à d'autres destinations que la seule destination hexagonale. Tout cela, finalement, contribue et contribuera, offre en tout cas un potentiel pour que l'île se construise et se construise de manière plus équilibrée demain. humain. Donc là où je rejoins finalement le constat qui a été fait par Monsieur Vital, il est évident qu'on peut pas faire qu'on peut pas avoir de vision idyllique. Pour autant, on peut aussi regarder ce qui aujourd'hui se fait, pas forcément effectivement sous le feu des caméras ou sous les micros, mais qui peut aujourd'hui constituer un réel potentiel pour cette île. Alors, je pense notamment à l'énergie renouvelable, mais je ne sais pas si nous aurons l'occasion ni même le temps d'en parler.
J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est que faut quand même dire à nos auditeurs qu'il reste 26 kilomètres de lagon, qu'ils sont parfaitement sûrs que la baignade y est autorisée, que la Réunion reste une destination touristique, la montagne est aussi un atout extraordinaire, et comme le temps passe très vite et que Philippe Vital a soulevé un problème qui était important, je voudrais quand même revenir là-dessus, parce que depuis les années 70 et la régionalisation, Philippe Vital, l'identité réunionnaise, la culture propre à ce pays a pu s'épanouir quand même plus librement, non ?
Mais bien sûr, mais plus librement. Il faut quand même savoir qu'il faut attendre 1981, peu importe les politiques qui ont permis cela, pour que la musique réunionnaise, comme le Séga, le Maloya, pour que le créole, soit autorisé. Ça peut paraître assez surprenant, mais il a fallu vraiment attendre 1981 pour que la culture réunionnaise en tant que telle soit reconnu, mais même pas reconnu, soit autorisé, puisqu'on n'acceptait pas, si vous voulez, dans l'espace public, que la musique traditionnelle de La Réunion soit jouée.
Je me porte un petit peu en faux contre ça, parce que j'étais à l'époque à La Réunion, et le Ségal Maloya était quand même joué de manière peut-être moins publique qu'elle ne l'est maintenant, mais qui elle existait quand même.
Elle existait sans doute, comme on dit à La Réunion, dans le fait noir, c'est-à-dire un peu de manière souterraine, mais le premier album de Ziska Khan a été enregistré dans une église auprès d'un prêtre ouvrier du port. Reste quand même que tout cela, et même aujourd'hui, puisque vous semblez très bien connaître La Réunion, vous savez très bien que même les familles réunionnaises disent de temps en temps à leur marmaille, écoute, ne parle pas créole, c'est tout de même une langue un peu sale pour l'école, il faut parler une autre langue. Les cours de langue et culture régionale à La Réunion, dans les écoles, il n'y a pas plus de 4% d'élèves qui sont inscrits dans ces cours. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Donc la reconnaissance culturelle, quand on met une classe langue et culture régionale, il n'y a pas plus de 4% des parents, qu'ils soient métropolitains oreilles ou créoles, qui inscrivent leur enfant dans ces classes-là.
Vous nous dites que le chemin reste long à parcourir, Philippe Vital, et on peut facilement vous donner crédit de cette réflexion-là. Manuel Valls va inaugurer une centrale solaire. Je le disais, La Réunion possède déjà une centrale hydroélectrique qui est très performante. Le numérique s'y développe aussi rapidement, dit-on. On évoque quand même une île moderne, et malgré les réticences qu'évoquait tout à l'heure Philippe Vital, La Réunion, ça reste résolument tourné vers l'avenir. François Parmentier.
Clairement, et elle le reste notamment sous l'angle des énergies renouvelables, singulièrement. De grands efforts restent encore à faire. Pour autant, le projet qui a été inauguré ce matin, c'est un projet tout à fait emblématique. C'est tout simplement un projet de production d'énergie photovoltaïque, mais le photovoltaïque, son gros inconvénient, c'est que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. Là, il y a du stockage d'énergie derrière.
Il y a du soleil.
9 mégawatts, exactement. Il y a du stockage, et ces cellules photovoltaïques, en fait, elles servent à couvrir des serres, et cette usine, elle est où ? Elle est implantée au port, elle est implantée en fait en milieu carcéral. Donc ça permet aussi de former des détenus au métier de l'énergie, ça permet également de les former au métier du maraîchage, parce que sous ces serres, on y produit des légumes, des fruits, etc., et ça permet de faire un tas de choses.
Et les projets ne manquent pas, manifestement. En tout cas, La Réunion reste un extraordinaire but de voyage à recommander à tous, et merci bien évidemment à tous les deux, François Parmentier, directeur adjoint du département Outre-mer de l'Agence française de développement, et Philippe Vital, sociologue à Aix-Marseille Université. Je rappelle le titre de votre livre, Mobilité ultramarine, aux éditions des Archives contemporaines. Merci également à Florence Ponce et Jérémy Bessé qui ont préparé et réalisé ces missions, à Emmanuel Sévin à la documentation. Demain, Marie Normand et ses invités évoquent la journée mondiale contre le travail des enfants. Vous restez à l'écoute. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.